amigos et bienvenue dans Silicon Carnet, le podcast tech picante, coproduit avec French Web. Mon nom est Carlos Diaz, investisseur, entrepreneur et podcasteur. Je suis le gringo en chef de cette émission. Je vis à San Francisco depuis maintenant plus de 10 ans et je vous propose chaque semaine de décoder avec mes invités les sujets caliente de la Silicon Valley. Alors, si vous êtes auditeur de Silicon Carnet, vous le savez, on a créé les premiers NFT de l'épisode de l'émission Silicon Carnet. Chaque semaine, c'est l'occasion de nouveaux NFT. Ces NFT sont comme des membership cards qui vous donnent accès à un espace communautaire qui est dédié aux propriétaires de ces NFT. Donc, vous pouvez venir grâce à NFT dialoguer avec moi, mes invités et puis surtout les autres auditeurs de l'émission. On a plein de projets avec ces NFT. Donc, cette émission sera l'objet de 10 nouveaux NFT, donc 10 nouveaux membres pourront rejoindre la communauté Silicon Carnet qu'on appelle l'Hacienda. Donc, je vous donne rendez-vous, ça se passe sur siliconcarnet.uncut.fm pour faire l'acquisition de ces NFT et nous rejoindre dans l'Hacienda, la communauté des auditeurs de Silicon Carnet. Allez, retour à votre épisode. Au cours de la dernière décennie, la demande des consommateurs pour les services de rencontres en ligne a considérablement augmenté, à tel point qu'aujourd'hui, Internet est devenu le premier lieu de rencontre. Une étude récente a montré que les couples hétérosexuels sont plus susceptibles de rencontrer un partenaire en ligne que par le biais de contacts et de relations personnelles. Pourtant, même si les chiffres progressent, on a l'impression d'une certaine lassitude pour les apps de dating. Le Covid a bousculé les règles et les gens semblent de plus en plus hésiter à rencontrer des inconnus dans la vie réelle. Pour certains, on constate même un regain d'intérêt pour des modes de rencontre plus naturels, offline, alors que pour d'autres, des relations platoniques 100% online semblent être devenues une nouvelle norme. Cette semaine, j'avais envie de faire le point sur le online dating et le virtual flirting avec mes invités. L'occasion à nouveau de se poser la question du lien entre technologie et relations interpersonnelles. J'ai deux invités avec moi. Ma première invitée, c'est Laurie Dutheil. Elle est fondatrice de Glorious Day for Love. What a wonderful name, you know, by the way, Laurie. Elle accompagne des célibataires dans leur recherche amoureuse. T'es une sorte de coach, c'est ça, Laurie? Bienvenue dans Silicon Carnet.
Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Oui, je suis une sorte de coach. Je me vois un peu comme une accompagnante ou une petite fée qu'on a sur l'épaule pour nous guider dans cette quête de l'amour, oui.
Ouais, je suppose que tu connais super bien toutes ces apps de dating, puisque c'est devenu l'outil privilégié, je pense, des célibataires aujourd'hui pour trouver l'âme sœur. Je lisais ton site web qui est très bien d'ailleurs, qui est très bien fait. J'ai eu l'impression de te rencontrer déjà alors qu'on ne se connaît pas encore. Et tu as une phrase sur ton site où tu dis que la technologie n'a jamais été pour toi le symbole de la mort du romantisme ou de l'amour, bien au contraire. Pour toi, ces nouvelles technologies, elles n'enlèvent rien à l'acte de rencontre ou à l'acte amoureux?
Absolument pas. Moi, je trouve que ça permet de déployer d'autres ressources ou d'autres façons de se lier, d'autres formes de témoignages d'affection, de romanesque. C'est okay. Vraiment une ressource et une bibliothèque assez inépuisable pour moi.
D'accord. Écoute, on va en parler. On va voir ça ensemble. Ça va être passionnant parce que tu es une véritable experte du sujet. Moi, j'y connais pas grand-chose. Je suis un peu rangé des voitures, comme on dit, quoi, malheureusement. Et c'est pour ça que je voulais faire cette émission parce que, non pas que j'anticipe quoi que ce soit, en tout cas, si ma femme écoute, j'espère que c'est pas le cas, mais je suis curieux. Je suis curieux de savoir comment ça se passe aujourd'hui. Et je sais que ça a beaucoup évolué ces dernières années. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai invité Daniel Chahib, qui est le cofondateur d'une app de rencontre qui s'appelle Feels et qui justement met un petit peu un coup de pied dans la fourmilière. Je dis une app de rencontre, mais quand on lit votre site web, vous dites que vous n'êtes pas une dating app. Vous prenez, je vous cite Daniel, sur votre site, j'ai essayé de faire une traduction en français, je ne sais pas si ça va être heureux, des relations détendues, sans règles ni étiquettes, sans pression sociale et sans injonction paternaliste ou traditionnaliste. Vous n'êtes pas une app de rencontre, c'est ça? C'est quoi, Feels?
Sémantiquement, si, c'est une application pour faire des rencontres. Pas une application pour se faire des amis, mais donc des gens qu'on connaît pas. Mais en fait, c'est pas une application de rencontre dans le sens où il y a pas de swipe, il y a pas de match. C'est pas une application de rencontre telle qu'on les connaît, telles qu'elles se sont développées.
Ah, j'adore votre phrase sur votre site. Vous mettez en gros. Le site est super beau d'ailleurs, hein, magnifique. Bravo, félicitations. Vous avez une vraie identité. Il y a un vrai ton et tout ça. Et il y a cette phrase "Swipe is boring" que j'adore en fait sur votre site. Donc vous êtes un peu l'anti Tinder, c'est ça?
C'est même pas l'anti, on se positionne même pas par rapport à Tinder, c'est vraiment une nouvelle façon de s'exprimer, d'exprimer sa personnalité, d'exprimer ce qu'on est pour pouvoir faire des rencontres. Et c'est, en fait, c'est presque une approche fluide de la rencontre dans le sens où je me présente, mais je me présente bien et puis on verra ce qui se passe. C'est au feeling. C'était la base de tout et le nom
Fields,
le nom le reflète. Voilà.
Absolument. Alors disclaimer pour nos auditeurs, je le fais à chaque fois et c'est le cas. Je suis investisseur dans Fields avec Diaspora Ventures, donc je connais un petit peu Fields, non pas en tant que consommateur, mais en tout cas je connais le projet de Fields et je sais qu'ils vont très 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 bien avec des chiffres assez monstrueux en France où vous avez commencé, mais pas simplement puisque maintenant vous arrivez aussi sur le marché américain. C'est ça, Daniel, la nouveauté?
C'est ça, c'est un autre monde, une autre façon de consommer, beaucoup de choses en commun, mais c'est un vrai.
Il y a aussi beaucoup de différences.
Ouais, beaucoup de différences.
Ça serait intéressant d'ailleurs, et je sais pas si tu as une expertise d'ailleurs, Laurie, sur ce sujet-là. On se posera peut-être la question dans l'émission de quelles sont les différences, parce que le dating aux US c'est vraiment un truc très codifié. Est-ce qu'il y a des vraies différences culturelles entre la façon de dater entre l'Europe, la France notamment, et les États-Unis? Tu t'es posé cette question-là, Laurie? Tu connais un peu les deux modes, ou est-ce que finalement il n'y a pas tellement de différence?
Moi, je pense qu'effectivement Daniel pourra mieux en parler. J'imagine qu'il a très bien étudié le terrain avant d'y aller. C'est vrai que la notion même du mot dating avant d'avoir les arrivées des applications en France, on ne savait pas vraiment ce que c'était. Donc, je pense qu'on a une tendance à vouloir reproduire peut-être un modèle américain d'une façon à notre sauce, avec différentes étapes. Et encore, on est encore sur quelque chose d'assez. On n'a pas des vraies conventions. On a des conventions qu'on imagine et on essaye de se dire que c'est la nouvelle normalité, mais c'est encore assez abstrait.
Ouais, et puis il y a toute une littérature, hein, et puis aussi des films d'Hollywood. Hein. Moi, je me rappelle, je suis désolé, je vais encore faire mon vieux con, mais je suis sûr que tu connais ce film, Laurie, You've Got Mail, qui dans les années 90, qui déjà préfigurait déjà des. Je me demande d'ailleurs à quoi ressemblerait ce film aujourd'hui. Il est complètement dépassé, hein. Non, ce film, c'était avec comment elle s'appelle? Elle était. Oui, Meg Ryan, bien sûr. Bien évidemment, tu vois. Et effectivement, c'est intéressant de re-regarder ce film aujourd'hui et de se dire waouh, le bon qu'on a fait qu'en fait en quelques années. Parce que l'histoire du film, si je me rappelle bien, c'est que ils commencent une relation online, mais ils ne savent pas qui ils sont, quoi. Grosso modo, c'est tout. C'est presque un vaudeville, hein, cette histoire-là, quoi, en fait. Et ils vont découvrir à la fin que c'est le mec avec qui elle bosse, ou je sais plus. Enfin, je sais pas.
Je crois que je me souviens plus du tout de la chute.
Je me rappelle plus. Mais enfin bref, ça aujourd'hui, c'est complètement impossible, quoi, en fait. On sait très vite à qui est-ce qu'on a affaire. Quoique, on va en parler aussi, il y a quelques pièges. Bon, moi j'avais envie de vous... peut-être qu'on peut commencer avec toi, Laurie, en tant qu'experte justement de ça. On en est où dans le dating? Le online, c'est devenu vraiment la nouvelle norme? Quand on cherche quelqu'un, on commence maintenant par le online?
J'ai l'impression que c'est une case qu'on envisage forcément. C'est-à-dire qu'on peut se dire, je vais regarder au travail ce qui se passe, je vais regarder remonter la filière des amis d'amis ou des sorties impromptues, et on finit par l'envisager. Après, c'est à tout à chacun de choisir s'il a envie de s'y aventurer. Mais je pars du principe aussi qu'au final, le virtuel s'installe un peu partout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en délinéarisé ou qu'on s'adresse à quelqu'un même par message ou même par téléphone, on est déjà dans quelque chose qui n'est pas dans face à face. Donc pour moi, le virtuel est absolument partout dès qu'on parle de séduction.
Mais à mon époque, on utilisait beaucoup des gens, des sortes d'intermédiaires, des célestines, quoi, en fait, quoi. Si je veux reprendre un terme littéraire, quoi, en fait, qui étaient ces sortes d'intermédiaires pour rencontrer quelqu'un. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, quand j'ai un peu bouquiné pour préparer cette émission, que cette recherche, elle est devenue très solitaire, quoi, en fait. C'est-à-dire, c'est un peu un truc qu'on fait dans son coin, où finalement, tout d'un coup, on dit « Ah ben, j'ai rencontré quelqu'un », mais ça sort un peu du chapeau. Est-ce que c'est le cas, ça, Laurie ? Justement, est-ce que le online a amené un peu une forme de recherche un peu solitaire ?
Moi, je considère que c'est un des risques potentiels, c'est un sentiment d'isolement de la personne qui cherche l'amour, justement, parce que elle peut le raconter après coup à ses amis, mais c'est quand même une démarche assez isolée, soit sur son canapé, on ne se rend pas forcément compte ce qui se passe à côté, de l'autre côté du rideau à la personne à laquelle on s'adresse, mais aussi du côté des autres personnes, les autres femmes ou les autres hommes qui sont à côté de nous. Donc en ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu solitaire qui peut s'avérer être un petit peu plus douloureux que si on avait vraiment ce rapport au matchmaking plus classique ou à l'intermédiaire ou à quelqu'un qui vient de dire dans la cour « Et lui, il a flashé sur toi » ou « Elle a flashé sur toi ». Où là, naturellement, il y a directement une intervention extérieure.
Et on en parlait tout à l'heure, Daniel, juste avant de commencer l'enregistrement. Le stigmate de la rencontre en ligne, il a complètement disparu parce qu'il y a eu un moment où on ne disait pas, tu vois, qu'on s'était rencontré en ligne. Ce stigmate, aujourd'hui, on en est où ?
Alors, c'est ni blanc ni noir. La réponse pour moi, elle est assez grisée. Et puis, c'est vrai que ça devient de plus en plus normal de le dire, qu'on s'est rencontré sur une application de rencontre, mais c'est pas quelque chose qu'on va crier sur les toits. Et encore, hein, quand on parle avec des vrais utilisateurs qui ont 18-20 ans aujourd'hui, ils en parlent de façon assez libre, mais il y a quand même une gêne. On sent toujours cette gêne.
C'est pas glamour de se rencontrer en ligne, Laurie, c'est ça, quoi, en fait.
On a l'impression que c'est décorrélé du côté serendipity ou du côté on était fait pour se rencontrer. C'est comme si on enlevait justement une couche de romantisme ou une couche de la. J'avais, moi, des gens autour de moi qui disaient je trouve ça triste. Comme si c'était associé à une forme de nostalgie de l'avant qui, à mon sens, n'existe plus.
Daniel ?
Oui, en fait, le problème de la rencontre en ligne, c'est qu'il est perçu de façon superficielle parce qu'il te met en contact directement avec quelqu'un et qui l'amène tout de suite, qui grille les étapes, qui sont assez sympas à vivre, mais elle les grille totalement pour qu'on puisse tout de suite se rencontrer et qu'on soit assis en face l'un de l'autre et qu'on ait besoin d'avoir des choses à se dire. Et en fait, toute cette partie qu'on grille, elle rend c'est perçu comme ça, elle rend l'expérience de la rencontre en ligne pas très attrayante.
Mais peut-être parce qu'on se dit aussi que la rencontre, c'est un jeu social, bien évidemment, et qu'on se dit que si j'ai besoin d'aller online, c'est peut-être que ma vie sociale est pourrie, quoi, grosso modo. C'est que c'est peut-être ça, la culpabilité. C'est peut-être que je ne fais pas suffisamment de choses. J'ai une vie pas assez riche pour, justement, créer des rencontres fortuites et utiliser cette sérendipité. Et j'ai l'impression, Laurie, ça c'est en lisant aussi quelques trucs, j'ai l'impression qu'on revient vers du speed dating dans la vie réelle, c'est-à-dire qu'on essaye, j'ai lu quelques trucs, notamment cet article dans le New York Times, où à New York, on réorganise, quoi, en fait, des rencontres dans la vie réelle pour échapper justement à ce dating online. C'est quoi, c'est une nouvelle mode ou non, il y a quelque chose d'une tendance de fond derrière ça?
Je pense que c'est aussi lié à la pratique personnelle. J'organise aussi des événements de dating live, donc je ne cracherai certainement pas dans la soupe parce que je considère que c'est un élément aussi important pour recréer du lien, de la connexion et de l'intuition et de la spontanéité. Donc c'est un événement où on vient, donc on mélange un esprit start-up et un esprit dating parce qu'on vient pitcher un ami célibataire à soi avec des slides.
Waouh!
Un dating pitch deck où on vient pitcher un ami célibataire ou une amie célibataire avec des slides. Alors bien sûr, il y a de l'humour, mais il y a aussi
beaucoup d'affection. C'est une sorte de dérision. Ouais. C'est en dérision.
Mais c'est vrai que pour moi, c'est une façon aussi d'offrir une complémentarité au service que je peux proposer moi d'accompagnement sur le virtuel, parce qu'on sent cette envie de recréer du lien, de la spontanéité et potentiellement de l'étincelle.
Et c'est aussi, je suppose, pour toi en tant que coach, une façon aussi d'aller au-delà simplement de rencontrer quelqu'un, mais de travailler sur la confiance en soi, d'être capable de se présenter, de s'adresser à des inconnus finalement, et c'est presque un exercice, quoi, peu importe si ça aboutit à une rencontre. Vous utilisez ça aussi pour ça? Et les gens ont du mal à ça?
C'est l'accompagnement au storytelling, à l'expression de soi. C'est sûr que c'est un concept qui existait initialement aux États-Unis, ce dating pitch. Là, c'est plus dur de le faire en France parce qu'on a moins cette façon de se raconter. Mais c'est vrai que moi, des territoires que j'ai vraiment envie d'explorer avec les personnes que j'accompagne, c'est cette façon de se raconter soi, cette façon de se montrer et de se laisser voir aussi. Parce que mine de rien, voilà, sur les applications, on se raconte avant de se rencontrer. Et dans ce cadre-là, c'est un accompagnement à l'expression de soi, ce que j'appelle moi des dating skills, c'est ce qui peut aussi bien représenter la qualité de la conversation que l'humour, que la façon de porter ses vêtements, dans tout ce que ça peut représenter dans la façon de se raconter aux autres et de se montrer aux autres.
Là, Laurie vient de dire un truc très intéressant, elle vient de dire c'est on se raconte, on se présente en fait sur les apps de dating peut-être d'une façon qui est pas forcément authentique, c'est-à-dire qu'il y a un truc un peu préfabriqué. Justement, dans Fields, vous, ce que vous essayez, c'est justement le contraire, c'est de reprendre une sorte de temps long, quoi, en fait, de redonner un peu de temps pour se raconter de façon plus authentique. C'est ça dans Fields, c'est une histoire avec des épisodes d'ailleurs. Et pas simplement une photo.
C'est ça, en fait, il faut vraiment le concevoir comme la première image que je vais montrer de moi, donc et qui va permettre aux utilisateurs de découvrir. Donc, je vais découvrir plusieurs profils, et c'est une première façon de se raconter. Donc, nous, c'est tout ce qu'on a fait autour du profil, du contenu, et effectivement, c'est 9 séquences, des vidéos, des photos, du texte. Et ensuite, il y a la façon de se raconter, mais quand on prend les chemins en créant des conversations avec certaines personnes. Et okay. Ça, c'est une autre façon de se raconter, parce qu'on va un peu plus loin dans l'expression de son humour, etc. C'est une autre façon. Il y a une façon qui est très directe. C'est moi qui me présente à toi, et ensuite, c'est un échange. Et donc, c'est sur cette partie-là que nous, effectivement, on a beaucoup travaillé. C'est pour que tu puisses vite avoir un bon feeling sur quelqu'un avant de rentrer dans les conversations. Parce que ces conversations, finalement, elles prennent beaucoup de temps, elles prennent beaucoup d'énergie. On ne sait jamais où elles vont amener. C'est ça qui peut être fatigant quand on rentre trop longtemps dans ce genre de conversation.
On y passe beaucoup de temps, Laurie. C'est un boulot à temps complet, cette histoire?
Ça demande énormément d'investissement, effectivement, en termes de temps, d'énergie aussi. Et émotionnellement, ça peut être assez impactant, oui. Parce que si on est dans un cadre de simplement lancer une conversation et s'assurer qu'on va avoir une réponse, mais maintenir cette conversation avec quelqu'un, effectivement, si on a peu d'informations, c'est pas le cas sur Fields, mais si on a peu d'informations sur le profil initialement avec lequel on va rentrer en contact, on est sur des conversations qui peuvent rester un petit peu en surface avant éventuellement qu'on se rencontre, parce qu'on a peu de moyens, on a peu d'éléments, de facteurs, on va vous dire ça peut être une issue, une solution ou un indice ou un stimuli de conversation qu'on va pouvoir avoir derrière. Donc c'est effectivement assez long, et c'est quelque chose qui peut être aussi c'est une activité que j'ai pu mener moi avant de me lancer à plein temps dans ça. J'étais ghostwriter sur les applications de rencontres, c'est-à-dire que j'étais payée pour parler à la place de mon client, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des clients qui avaient envie de complètement externaliser cette façon-là d'exprimer. Donc j'ai vraiment pu expérimenter le fait de parler à la place d'un homme, à la place d'une femme, à la place d'un senior, et de me rendre compte qu'effectivement ces conversations-là, ces premières conversations-là n'avaient pas toujours un intérêt démesuré. L'important, c'était la création de la complicité, la création de ce que tu décris, une sorte de conversation, un chemin de traverse et une autre ramification, une autre arborescence dans la connaissance de l'autre pour arriver sur un rendez-vous.
Mais ce qui est dingue dans ce que tu, quand je vous écoute, j'ai l'impression que c'est presque un travail d'enquête, quoi. Et donc en fait, où on va découvrir quelqu'un online d'abord et découvrir, il y a une rencontre bien évidemment, mais c'est l'intérêt, c'est de glaner de l'information pour mieux comprendre à qui est-ce qu'on a à faire. Et aujourd'hui, avec l'explosion des médias sociaux, on est rentré dans une dans des relations qui sont devenues multimodales, dans le sens où on a plein d'outils pour découvrir l'autre. À partir du moment où on a son nom, on va pouvoir aller regarder son Instagram, on va pouvoir sortir de l'app de dating, on va pouvoir aller regarder son LinkedIn et regarder son profil plus pro, etc., ou son TikTok, etc., etc. Donc, comment est-ce qu'on arrive à gérer, finalement, on avait fait une émission très intéressante sur l'identité digitale et le fait qu'aujourd'hui, on avait presque plusieurs identités. Il y a d'ailleurs ce fameux, c'est le concours, je ne sais plus quoi, où tu mets 4 photos, c'est ta photo de toi sur LinkedIn, ta photo de toi sur Insta, ta photo de toi sur TikTok, et, etc. Donc, je ne me rappelle plus du nom de ce truc, mais c'est une actrice américaine qui avait lancé ce truc-là. Daniel, est-ce qu'il y a vraiment ça aussi, c'est-à-dire une difficulté aussi à consolider quelque part toutes ces identités digitales, et est-ce qu'on essaye de les consolider? J'ai l'impression que générationnellement aussi c'est différent. Il y a ça, il y a cette difficulté de ces différentes identités à gérer, ça c'est compliqué pour les gens. Et les traces qu'on laisse, hein, parce que forcément on a peut-être, tu vois, sur Google, laissé des traces qui ne correspondent plus non plus à qui je suis aujourd'hui, quoi.
Alors il y a deux éléments de réponse de mon côté. Le premier élément, c'est que il y a toujours une forme de volonté sur une application de rencontre de pas trop en dire sur soi, parce que on n'a pas trop envie d'apparaître, on n'a pas trop envie que les gens autour de soi le sachent, on n'a pas trop envie d'être googlé non plus, on n'a pas envie de tomber sur son boss, sur son ex, sur ce genre de choses, et du coup on utilise même si on utilise le prénom, c'est très rare quand même d'utiliser le nom de façon très.
Donc ça reste anonyme, quoi, en fait. Ça reste pseudo-anonyme. On date avec avocat 1263, quoi.
Non. C'est pas anonyme dans le sens où on a quand même une majorité des cas où il y a le prénom qui apparaît et la vraie photo. Donc ça, c'est la majorité des cas où la vraie vidéo, etc. Donc on n'est pas anonyme, mais on a envie de garder une distance au départ. Et d'ailleurs, ça joint à mon deuxième point. En fait, si tu regardes les nouvelles générations, elles vont beaucoup d'entre eux vont avoir deux comptes Instagram, un compte public et un compte personnel. Le compte personnel est dédié à ses amis et le compte public est un peu une vitrine. Du coup, on va laisser entrer un peu n'importe qui sur le compte vitrine et on va garder son compte perso très très serré. Et c'est un peu cette, en fait, on crée dans son identité digitale quelque chose d'un entonnoir, quoi. Donc, c'est à ça que correspondent les différentes identités.
Donc, quand tu dis ça, je me rends compte qu'avec mes filles, par exemple, moi, j'ai accès à l'Instagram public, hein, en fait. Hein, j'ai pas accès à l'Instagram privé. Je viens de me rendre compte de ça, en fait. Je crois pas que je sois dans le privé, moi. Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'elle poste rien, quoi, en fait. Ou alors vraiment que des trucs bateaux, quoi. Donc, je dois être dans l'Instagram public, en fait, de mes filles et pas dans l'Instagram privé. Laurie.
Oui, sur la partie recherche, se documenter sur les personnes avec qui on va parler, c'est vrai que c'est quand même une part importante de l'exploration. C'est-à-dire qu'au-delà de swiper ou au-delà de discuter ou d'aller interagir, la recherche, c'est une vraie partie du temps qui est dédiée au dating et à l'exploration des applis.
Et les gens, ils prennent plaisir à ça. Est-ce que c'est un peu comme un jeu, quoi, aussi, quoi, c'est-à-dire, ou est-ce que c'est vraiment une punition, quoi, c'est-à-dire de se dire, comment est-ce qu'ils le vivent, ça?
Ça dépend des interlocuteurs, et voilà, il y a pour beaucoup, c'est à partir du moment où je vais m'investir, ou peut-être je vais laisser rentrer quelqu'un dans ma vie, que ce soit pour un verre ou que ce soit pour quelque chose, il y a l'envie de sécurité, bien sûr, ou de protection de soi, il y a la curiosité, l'envie de, encore une fois, quand on est dans une démarche d'investissement, de se dire, est-ce que la personne coche autant de cases, parce qu'il y a énormément de projections aussi, parfois, sur ce qu'on attend de l'autre, ou sur ce qu'on a envie qu'il ait tel type de poste, tel type de truc, où est-ce qu'il habite, est-ce que sa vie ressemble à la mienne. Il y a énormément de travail de projection. Et en ça, c'est vraiment une démarche active. On peut se rendre compte, je trouve, dans la façon dont on consomme une application, ce qui est de l'ordre de la réaction ou de la réactivité plus classique, quand on est vraiment dans une démarche plus passive, et ce qui est de l'ordre de l'action et de l'activité. Et pour moi, la recherche documentaire pour se rassurer ou pour se conforter dans les contours, parce qu'on reste du virtuel, on rajoute des contours supplémentaires sur la personne à qui on s'adresse, c'est une vraie partie du temps qui est déployée.
Alors justement, parlons des avantages et des inconvénients du online dating. Laurie, toi, t'es super bullish sur le online dating. Pour toi, il y a des vrais avantages. C'est quoi ces avantages?
Pour moi, les avantages, c'est la possibilité. Enfin, c'est la multiplicité des possibilités, des potentiels. Donc, à partir de ce moment-là, c'est la possibilité d'avoir, si on ouvre suffisamment son esprit, parce qu'on a parfois nos propres blocages, donc on mettra les mêmes types de barrières dans la vraie vie qu'on les mettrait sur Internet. Donc, pour moi, mon but, c'est d'ouvrir un maximum ce champ des possibles. Pour moi, c'est un champ des possibles qui est exceptionnel. vraiment, dans la possibilité de faire des rencontres, de découvrir des histoires, de se découvrir soi-même. Pour moi, c'est vraiment une exploration de soi, au-delà de l'exploration des autres.
Et est-ce qu'il n'y a pas une forme de merchandisation, en fait, de ça? C'est-à-dire que, justement, le fait de parler d'un catalogue, quoi, qui est démultiplié, est-ce que ça n'a pas placé les gens un peu dans un mode un peu consommateur, c'est-à-dire d'envisager finalement le dating comme un produit, quoi. Quelque part, les gens sont devenus des produits sur étagère. Moi, j'ai l'impression sur Tinder que c'est un peu ça, quoi. On a l'impression d'avoir des produits sur étagère. Il y a pas un peu ça?
Alors, pour moi, il y a deux façons de voir les choses. Il y a sa responsabilité personnelle. Dans son développement personnel, à mon sens, c'est important de faire le point sur pourquoi on est sur une application de rencontre et quels sont vraiment nos objectifs quand on le fait, de le faire d'une façon d'être quasiment en pleine conscience. Si on est dans une logique de consommation, justement, ou de se tester, ou dans quelque chose qui est proche de la boulimie, c'est de la responsabilité personnelle. Après, dans les personnes qui sont en face et auxquelles on s'adresse, c'est vraiment d'être dans le respect de l'autre, en fait, dans la façon dont on va le considérer, le considérer vraiment comme un être humain, de le respecter. Enfin, voilà. Et pour moi, il y a quelque chose de l'enjeu de santé mentale là-dedans. C'est de vraiment être conscient de ce qu'on fait à chaque moment.
Daniel, là-dessus, c'est quoi ta réaction sur l'approche qu'on a, en fait, de cet acte presque de consommation et de ramener un petit peu une forme de bio, j'ai envie de dire, dans cette consommation?
Si tu veux, si on prend vraiment du recul sur la façon dont ça s'est construit, il y a dans toutes les cultures, il y avait un peu ce genre de consommation, mais c'était à plus petite échelle. Moi, je me rappelle que j'étais allé en Chine en 2009, et le dimanche matin, je me retrouvais dans des endroits où ils avaient placardé les CV de toutes les personnes sur les murs, et donc tous les célibataires, et les gens venaient pour regarder, sans un peu apprendre à connaître les gens qui sont là, mais sous forme de CV, quoi. Et c'est de la même manière, t'as l'impression que t'es dans un catalogue, parce que ce serait des pages. Bah, c'était un peu de la même manière, t'allais voir, et c'est un peu une sorte de marché où on voyait qui était célibataire et qui pourrait être intéressé. Mais on l'avait aussi d'une certaine manière en Europe. Et en fait, quand Tinder, qui a créé un peu ce mouvement-là, s'est créé, ça correspondait au code de 2012, où j'avais ma photo de profil Facebook, que je connectais automatiquement, ça me faisait un profil. Et du coup, la meilleure façon de le consommer, c'était de passer d'une photo de profil à l'autre.
D'accord. Et à l'heure de TikTok, en fait, ça a changé. C'est ça qu'en fait, la norme, c'est plus Facebook, c'est TikTok. Il y a plus de storytelling, il y a plus une histoire à raconter. On est plus dans le mouvement, dans une sorte de c'est plus simplement une image qu'en fait. C'est ça ce que tu veux dire?
J'irais même un peu plus loin. En fait, je prends mon exemple. En 2012, j'avais un téléphone avec à peine, 50 mégas de place, je prenais que des photos, je pouvais même pas faire de vidéo. Ouais. Je crois que c'était sur BlackBerry, mais c'était pas, enfin, on s'envoyait toujours des SMS, c'était pas encore à 100% le WhatsApp, le Telegram, le Messenger. Aujourd'hui, on n'avait pas des clés USB qui aussi grosses en termes d'espace.
Ouais. Voilà.
Et aujourd'hui, t'as des photos, vidéos, tout est retouché, on peut le faire en ralenti, en accéléré, on peut faire des montages TikTok. C'est une machine à faire des montages très facilement. Et du coup, j'ai beaucoup plus de choses à dire sur moi.
Ouais.
Et c'est pas juste TikTok. C'est parce que je peux écrire, je peux mettre une photo, rajouter un texte, le bouger, mettre un gif pour un peu mettre en opposition ma photo, mon contenu avec un gif ou une photo. Enfin, et tout ça, c'est des codes de réseaux sociaux, mais c'est pas un réseau social en particulier. C'est plutôt j'ai plein de contenu maintenant à mettre, autant en faire quelque chose de ce contenu.
Et il y a aussi le fait que cette génération, cette nouvelle génération est ultra créative avec ces outils-là, et ils ont envie d'exprimer une personnalité, une singularité, et utiliser les capacités créatives aujourd'hui de ces outils qui sont à leur disposition pour se mettre en avant et pas simplement... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup ça, Laurie, non? Aussi, il y a une nouvelle génération très créative, quoi, par rapport à ça.
Oui, moi, je vois un gap entre effectivement, les nouvelles générations et les générations plus âgées que j'accompagne aussi sur les sites de rencontres. Et là, le niveau de créativité est beaucoup plus limité. On est déjà en train d'essayer de rogner une photo ou de pas prendre une... Moi, j'ai essayé déjà de les empêcher de prendre une photo de leur écran pixelisé d'ordinateur comme photo de profil. Donc, il y a... Voilà. Mais c'est intéressant aussi.
Alors, sur les inconvénients, en faisant des recherches pour cette émission, j'ai découvert que c'était intéressant. Je pensais pas à ça. Laurie, ça m'intéresse parce que je suppose que tu es face à ça. On voit des gens qui ont parfois du mal à savoir quand quitter les rencontres en ligne et un peu laisser leur vie de célibataire derrière eux, quoi. C'est-à-dire que j'ai découvert qu'il y a des gens qui... avait du mal à s'engager. D'ailleurs, on le voit dans les études récentes, il y a de plus en plus de personnes qui retardent le mariage ou qui choisissent volontairement de rester célibataire. Est-ce que ces apps de dating sont à l'origine, finalement, de ce phénomène ?
Je pense que c'est un peu des deux. C'est, sociologiquement, on est sur on rebat les cartes, on rebat les modèles et on rebat, voilà, c'est, cette profusion d'offres. Pour moi, le plus gros, c'est même pas ça qui me ferait le plus peur. Pour moi, un des downsides, vraiment, c'est le rapport à la santé mentale, ce que je commençais à évoquer tout à l'heure. C'est la vision de soi. C'est-à-dire que pour je peux avoir des personnes que j'accompagne ou qui souffrent d'invisibilisation, ou d'autres qui souffrent d'être trop sollicitées, d'autres qui souffrent d'avoir une multitude de débuts d'histoire, parce qu'en fait chaque début d'interaction ou chaque vent qu'on se prend ou chaque arrêt, que ça s'arrête au milieu d'une conversation, que ça s'arrête une fois qu'on est sur WhatsApp, que ça s'arrête une fois qu'on se soit rencontré, je trouve que c'est autant de micro-douleurs et de micro-deuils et qu'on est censé et qu'on subit de façon, comme on le disait tout à l'heure, isolée et solitaire. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est pour moi un des gros warnings et une des choses que j'ai envie de, voilà, une des choses que j'ai envie de traiter et d'accompagner au mieux.
Le ghosting, il est super facile. Ce terme-là qui est de disparaître, quoi. Grosso modo, quand on est online, c'est super facile de ghoster quelqu'un. Quand c'est quelqu'un qu'on connaît dans la vie réelle, qui est dans son entourage, c'est plus difficile d'échapper qu'en fait à quelqu'un qui fait partie déjà de son environnement proche. Alors que online, c'est vrai que ce ghosting, tout d'un coup, sans savoir véritablement pourquoi, on a ça dans le recrutement aussi, c'est la même chose, où tout d'un coup, je fais des entretiens de recrutement et puis plus de nouvelles, quoi, en fait. Et ça pose des questions sur la santé mentale. Et effectivement, ça peut être, c'est ça ce que tu dis, Laurie, que ça peut avoir des impacts.
Ça a un impact sur son estime de soi, sa vision de soi. Est-ce que je suis signifiante ou non? Enfin, on parle parfois des notes de désirabilité qui sont associées à Tinder ou à certains algorithmes. Moi, c'est plutôt la note qu'on se donne à soi-même quand on va se coucher qui me fait peur.
Ouais.
Et qui fait qu'au-delà d'accompagner sur le, moi, je veux les accompagner pour qu'ils trouvent le bonheur et l'amour. Mais déjà, moi, mon principal objectif, c'est qu'ils ne souffrent pas sur le chemin, quoi, dans l'exploration, parce qu'il y aura des bosses et il y aura des bleus.
Daniel, là-dessus, c'est douloureux. Ça peut, vous le traitez d'ailleurs sur Fields, ces notions-là. Qu'en fait, comment est-ce que les gens se sentent dans leur démarche
Alors, ce qui concerne Fields, comme tu es sur une génération qui est vraiment très jeune, on a moins ce sujet-là de confiance en soi, dans le sens où on se construit et on n'a pas encore essuyé une vie amoureuse tumultueuse, on va dire, et avec des hauts, des bas.
On a moins de cicatrices, ouais.
Ouais, on a moins de cicatrices, donc on est beaucoup plus naïf, mais dans le sens pas péjoratif du terme, mais c'est dans le bon sens du terme. Mais par contre, pour revenir à ta première question, je pense que c'est important de celle qui demandait où est-ce qu'on s'arrête dans les rencontres en ligne. Nous, on considère, et c'est un peu la façon dont tu l'as lu tout à l'heure, on considère qu'en fait, c'est plutôt positif d'avoir plusieurs relations, que les relations soient simplement des discussions ou même des relations sérieuses. Mais c'est positif d'avoir des relations parce que ça va nous permettre de mieux apprendre à se connaître, mieux apprendre à savoir ce qu'on aime. Alors que pour moi, à l'époque, on allait vers des relations plutôt sérieuses très rapidement et qu'on avait du mal à s'en sortir, le fait de multiplier un peu, pas beaucoup, c'est évidemment toujours un équilibre, toujours entre les extrêmes, mais de multiplier les personnalités, les rencontres, on va mieux appréhender une personne agressive, par exemple. On va mieux appréhender un type d'humour qu'on va aimer. Donc pour moi, il y a un aspect très positif à tout ça. Et je pense qu'une fois qu'on a trouvé quelqu'un, quand on a eu plein de relations avant, c'est des choses qui tiennent mieux. Et d'ailleurs, il y a une étude qui avait été faite elle est un peu âgée, mais il y avait déjà eu 10 ans d'expérience dans la rencontre, qui montrait que les gens qui sortaient d'une relation d'un site de rencontre duraient plus longtemps que celles
qui
n'étaient
pas dans le réseau. Oui, c'est, je l'ai lu, cette stat. Ouais, c'est... Donc, Laurie, je vois Laurie qui hoche de la tête, vous la voyez pas, mais moi, je la vois, mais elle est d'accord, j'ai l'impression, avec ça, c'est un bon exercice de la vie, finalement, et finalement, le fait que les choses se retardent, c'est peut-être pour le meilleur.
Oui, c'est un vrai outil d'exploration de soi, vraiment, c'est, on se, y a un jeu de miroir qui se fait, mais ça nous permet de tester aussi bien voilà, différentes façons de s'exprimer, différentes façons d'être soi, de s'explorer, de vraiment...
Et de s'essayer, quoi.
Exactement, d'explorer la personne qu'on a envie d'être.
Daniel, un dernier mot avant qu'on fasse une petite pause, et après je voudrais qu'on parle dans les inconvénients d'un truc que j'ai découvert qui est le catfishing, il faut vraiment que tu m'expliques ça, Laurie, quoi, en fait. Ouais, Daniel, vas-y.
Juste, avant qu'on passe aux inconvénients, un avantage, mais qui reflète un petit peu tout ce qu'on s'est dit, c'est en fait l'application, les relations en ligne, les applications en ligne ont tout d'abord servi les communautés qui étaient les plus esselées dans les sociétés. Les communautés LGBT, c'était la première à être les... D'ailleurs, tu le vois même dans les chiffres aujourd'hui. C'est celles qui utilisent le plus ces applications en compte. C'était les premières à avoir adopté. Pourquoi ? Parce que la société n'acceptait pas qu'un homme puisse rencontrer un autre homme et le faire de façon tout à fait...
Visible.
Visible et que moi, je te présente... Tu es un homme, je te présente un autre homme. Et du coup, c'était une sorte de refuge. C'est une façon de mieux se sentir. Je pense que les personnes gays se sentent mieux dans leur peau grâce à ces outils qu'ils ne pouvaient l'être quand ils n'avaient pas ces outils. Mais c'est la même chose pour les femmes. D'une certaine manière, c'était difficile pour une femme de construire une relation au travail parce qu'ensuite elle avait le jugement si c'était ça se finissait mal, de la même manière dans la famille, et là tout d'un coup je peux construire ma propre vie privée et ne pas être jugée. C'est des vrais outils d'épanouissement, en fait.
Ça me fait penser, j'arrive pas à retrouver ce roman, je me demande si c'est pas Jean Giono qui a un moment fait l'éloge de la bicyclette et qui explique que la bicyclette est formidable parce qu'elle a permis, et c'est assez drôle avec le online dating, aux jeunes d'aller se marier avec des garçons ou des filles du village d'à côté, alors qu'avant on se mariait dans le même village, et la bicyclette a permis d'étendre finalement, et je me rappelle plus dans quel roman, je crois que c'est Jean Giono qui fait ça, mais je sais plus. Je recherche.
Mais c'est très intéressant.
Mais c'est l'éloge de la bicyclette dans un des romans. Il faut que je retrouve ça. Si un des auditeurs se rappelle de ce que je suis en train de dire et qu'il m'envoie un mail parce que ça m'intéresse, faut relire cet éloge de la bicyclette. Alors, cette semaine, on fait l'éloge de la bicyclette dans Silicon Carnet. Non, on parle de online dating et de virtual flirting avec mes deux invités. Je suis en compagnie de Laurie Dutheil, qui est la fondatrice de Glorious Day for Love. Mon Dieu, j'adore ton nom. J'adore ce nom de voilà. Donc, on a tous besoin de plusieurs Glorious Days, you know, by the way, for love. Donc, je vous invite à aller sur son site web, Glorious Day for Love. Et puis, je suis aussi en compagnie de Daniel Chehaib, qui est le cofondateur de l'app de rencontre Feels. C'est pas véritablement une app de rencontre, c'est une app de rencontre nouvelle génération. Je vous invite véritablement à la découvrir. Je suis certain que certains d'entre vous d'ailleurs la connaissent déjà parce que c'est un énorme carton. Et je suis investisseur et je suis très content d'avoir Daniel dans cette émission. Si vous appréciez Silicon Carnet, n'hésitez pas à le faire savoir. La meilleure façon d'aider cette émission, c'est de partager ces épisodes à travers vos réseaux sociaux. Merci d'avance pour vos messages aussi que je lis sur Twitter, Facebook ou LinkedIn. Alors, je le disais un petit peu tout à l'heure, en explorant les avantages et les inconvénients, on n'a pas complètement terminé. Il y a un autre inconvénient que j'ai découvert en préparant cette émission que je ne connaissais pas. Ce terme où les gens s'inquiètent d'être catfished dans les rencontres en ligne. C'est quoi cette histoire de catfishing, Laurie ? Explique-nous.
Effectivement, le catfishing, c'est quand on échange avec quelqu'un qui nous laisse avoir une identité ou une facette de lui qui serait fausse.
D'accord.
Voilà, donc ça, c'est une première couche. Peut-être tu peux rajouter quelque chose, Daniel, en matière de définition du catfishing.
De catfishing, non, mais c'est ça. Moi, j'ai fait ma recherche. C'est le catfishing et le fait de créer une fausse identité afin d'attirer des personnes dans des relations en ligne. Le catfish désigne le prédateur qui crée cette fausse identité. Et apparemment, c'est une pratique qui est D'ailleurs, il y avait eu un documentaire que je vais m'empresser à aller regarder qui date de 2010 de Neve Schulman qui s'appelait Catfish. Et on se rappelle ce nouveau documentaire qui est sorti là il y a quelques mois sur Netflix. C'était quoi le nom, Daniel, de ce truc?
Tinder Swindler.
Ouais. Alors, mais c'était hallucinant ce truc. C'est où il y avait cet homme qui enchaîner des relations et qui était hyper, j'allais dire bon, hein, parce qu'il était incroyable de mensonges, quoi. C'était incroyable. Ces femmes croyaient véritablement avoir trouvé l'homme idéal. Et en fait, il leur soutirait de l'argent, quoi. Il y a ça online, il y a un vrai risque par rapport à ça, Daniel, de se faire catfish.
Ouais, mais en fait, c'est un comportement qui a toujours existé. Hein, qui est, d'ailleurs, si tu regardes le documentaire Tinder Swindler, au final, on parle très peu de Tinder parce que c'est tout un mécanisme qui est mis en place, mais qui aurait pu exister et qui a déjà existé auparavant. Ce que font les applications de rencontres, mais c'est aussi leur avantage, c'est qu'elles permettent de démultiplier et de faire les grands nombres en fait. C'est simplement ça. Donc, au lieu de contacter une personne par jour, bah, je vais en contacter 100. Dès qu'il y en a un que j'arrive à attraper, bah là, je vais aller l'emmener petit à petit dans mon plan que j'ai bien mis en place, qui est même parfois automatisé. Moi, chez Fields, je l'essaye de façon assez. Enfin, je me fais quatre fiches de façon assez régulière pour voir quel est le process qui est mis en place et pour qu'on puisse nous l'arrêter au bon moment.
Et tu me disais, Laurie, que ça touche toutes les générations, hein, c'est-à-dire que y compris les générations X comme la mienne ou les boomers sont victimes de ces catfish, avec notamment tu me parlais de sociétés, de plateformes d'appel, quoi, en fait, en Afrique notamment, qui c'est une vraie menace, ça.
C'est effectivement, c'est ce qu'on appelle les brouteurs, donc le terme vient de Côte d'Ivoire.
Les brouteurs.
Ouais. Okay. Ça peut donc, c'est de montrer, de créer tout un personnage. Donc, si on s'adresse à un homme, ce sera une jeune femme très belle et très séduisante et qui aura des mots qui sera assez entreprenante et du côté des femmes, bah, ce sera leur présenter le mari idéal. Et c'est vrai que moi, pour mes clientes seniors, c'est quelque chose où je suis vraiment souvent en vigilance parce que dans ce qu'on montre, c'est des photos, ce sera un homme grisonnant qui porte très très beau avec ses enfants, son chien et voilà. Et le moment venu où on aura envie de mettre en place une conversation téléphonique, étrangement, ça ne se fera pas. Là, ça navigue assez facilement, ça va naviguer vers une volonté d'extorsion de fonds. Donc, c'est assez important d'être en vigilance là-dessus.
Et donc, toi, tu prépares tes clients et tes clientes à ce genre de risque, en fait?
Voilà, mon but, c'est d'être systématiquement entre une envie d'accompagner le lâcher-prise, parce que c'est ce que disait Daniel, c'est ce besoin d'être parfois un peu naïf et ouvert un peu à l'inconnu, et en même temps d'être dans une vigilance et dans une envie de sécurisation, c'est-à-dire, voilà, je vais quand même regarder ce qu'on me propose, je vais quand même faire un maximum attention à la véracité des infos qu'on me donne, quoi.
On va faire ça, attention à ça. Daniel, comment est-ce que toi, tu as des conseils à donner pour détecter en fait ce genre de pratique? Quand est-ce que ça pue?
En fait, on a parlé du catfish, du cas extrême, donc des sociétés bien organisées, etc. Mais le catfish, c'est aussi des gens comme nous qui montrent leurs photos d'il y a 20 ans, qui mettent qu'ils ont 20 ans et qui se font passer pour quelqu'un d'autre, qui ne sont plus, qui ne sont pas, qu'ils aimeraient être. Et en fait, c'est ça toute la difficulté pour une application comme nous, c'est que ça peut être très bien une personne qui se vend un petit peu autrement, qui aimerait être, qui met parfois des photos de personnes qui la ressemblent. Enfin, c'est vraiment compliqué à mesurer, et parfois même on a l'impression, quand on rencontre la personne, que en fait c'était juste une différence entre la version en ligne et la version en vrai, mais des fois c'est même pas les vraies photos. C'est très difficile parfois, mais il y a des cas où c'est évident, et notamment moi, me faisant quatre fichiers pour connaître le process, je sais qu'au moment où les personnes commencent à demander d'envoyer des photos et que petit à petit les photos sont de plus en plus dénudées et que ça commence à être suspect. Ouais. Et effectivement, Laurie le mentionnait, ça veut pas passer en FaceTime. Ça, c'est un Ça, c'est un no-go. Ça veut pas donner son... Ça partage des faux Instagram, des faux Facebook, mais le contenu est très, très limité.
Est-ce que c'est OK, Laurie, de tricher un petit peu où est-ce qu'est la frontière, quoi, grosso modo, entre se rendre séduisant et puis de sombrer et devenir un catfish, hein?
Là, je rejoins complètement Daniel, c'est qu'on devient un peu le catfish de soi-même quand on montre des photos d'il y a 10 ans. Il y a une façon de se montrer, il y a une façon d'avoir une jolie lumière ou d'avoir une certaine façon de se raconter, mais voilà, c'est du bon sens. On est généralement vraiment franchement dans le domaine du bon sens. Dans un exemple de catfish que j'avais pu vivre moi personnellement, c'était effectivement pas du tout quelqu'un qui avait voulu me prendre de l'argent, mais il avait mis une série de photos où on était sur effectivement l'homme idéal dans ses, et le jour où on devait se le jour où on a voulu se rencontrer, l'homme a complètement disparu, et je voyais bien dans les mots qu'il lui employait, qui étaient plutôt ceux d'un geek ou avec ses références culturelles assez science-fiction et tout ça, que c'était très différent des photos de l'homme qui joue de la guitare, man bun, marchant pieds nus dans la nature. Mais mes tripes me disaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et la honte qu'on ressent quand on demande le digicode du monsieur et que là, il y a la suppression totale du profil. Il peut y avoir énormément de leviers ou de motivations potentielles derrière un catfish. Il y a effectivement encore une série Netflix aussi récemment autour d'un catfishing, et où finalement on se rend compte, sans spoiler non plus le truc, que finalement la personne qui est derrière tout ça est une personne d'une cinquantaine d'années qui vit avec son mari et qui finalement a fait ça pour rendre sa vie un peu plus existante, se glisser dans la peau de quelqu'un d'autre et expérimenter ce que c'est quand on est dans la peau de quelqu'un d'autre. Ouais.
Absolument. Moi, j'avais envie qu'on se pose aussi la question des différences ou des similarités qui existent selon les générations. J'avais envie de te poser cette question, Daniel. Qu'est-ce qu'on constate comme différence entre Gen Z, Millennials, Gen X et Baby Boomers? Moi, j'ai trouvé plein de stats intéressantes. Je voulais savoir si tu les valides ou pas, parce que je ne sais pas si c'est une étude qui a été menée par, je me demande si c'est pas Zouk ou un truc comme ça. Par exemple, ils disent que la génération Z semble moins exigeante en matière de rencontres en ligne. C'est-à-dire qu'en gros, ils swipe yes beaucoup plus. Est-ce que c'est cette naïveté c'est 33% pour la Gen Z de swipe yes, 15% pour les millennials, 20% pour la Gen X et les boomers. Il y a une différence là.
Alors, faut faire attention parce que j'avais vu passer ce truc de Zouk et ça mélange. Le problème, c'est qu'il compare des générations, mais pas des générations X quand ils avaient 18 ans, des générations Y quand ils avaient 18 ans. Évidemment que mon comportement est différent quand j'ai 30 ans par rapport à 18 ans. À 30 ans,
heureusement, j'ai envie de dire. Voilà.
Donc heureusement, je sais pas, mais en tout cas, mais c'est sûr que mes exigences sont plus importantes à 30 ans qu'elles le sont à 18 ans. Donc il est normal que je sois plus, je suis plus ouvert à différents types de rencontres à 18 ans et que je vais swiper plus à droite que ce que je vais faire à 18 ans et à 30 ans. Et d'ailleurs, les applications qui sont spécialisées pour les plus de 30 ans ou même pour les plus de 50 ans vont demander plus d'informations sur les profils. Et d'ailleurs, ça va être même des fois, nous, ça nous paraît étonnant, mais aux États-Unis, ils vont te demander ta religion, si tu veux avoir des enfants, ta taille,
combien tu gagnes,
toi, combien tu gagnes. Non, mais c'est une vraie, c'est catégorie socio-professionnelle, ça peut être plus ou moins clair, mais ça arrive. C'est pas quelque chose que quelqu'un de 18 ans va demander. Nous, ce qu'on trouve de différent dans l'usage, mais parce que c'est le produit est construit différemment pour répondre à un besoin différent, et du coup, on compare ce qu'était Tinder il y a 10 ans et ce qu'est Philz aujourd'hui, c'est qu'on a une vraie génération, ou en tout cas, ça s'applique beaucoup plus aux femmes, mais beaucoup plus fluide dans ses envies et ses attentes. Mm-hmm. Ce qui est intéressant chez Philz, c'est que c'est 50% des femmes vont chercher... vont en tout cas dire qu'elles recherchent des relations amicales. Non pas à 100% qu'elles cherchent toutes des relations amicales, mais une partie préfère le dire que c'est pour être amical et ensuite laisser la porte ouverte à d'autres relations. Il y a, je crois, je suis même sûr, 65% des femmes aussi qui cherchent hommes et femmes. Ce qui n'est pas du tout le cas chez les hommes. Les hommes cherchent seulement des, en tout cas
les applications hétérosexuelles, oui, ça c'est clair.
Ils cherchent, c'est à 85% qui cherchent que dans une direction. Mais on a ce dans les attentes et aussi dans ce qu'on cherche, on a une génération qui est beaucoup plus fluide qu'avant.
Oui, mais ça, c'est la Gen Z qui privilégie l'individu plus que son genre, quelque part, dans ses relations. Et on a l'impression que pour cette Gen Z, en tout cas, il y a une recherche plus d'une âme sœur, quoi, en fait. Et je pense qu'on a fait beaucoup de progrès aussi sur l'acceptation d'une sexualité plus ouverte. En tout cas, j'ai l'impression, Laurie, tu le constates toi aussi, quoi. Il y a la recherche d'une âme sœur ou non, c'est non, je cherche un mec ou je cherche une fille
en particulier. Moi, ce que je constate plus, c'est vrai que moi, les personnes que j'accompagne sont en général dans la trentaine et au-delà. Là où je rejoins beaucoup Daniel, c'est dans la façon d'utiliser les applis. C'est-à-dire que plus on est âgé, plus on aura tendance peut-être à vouloir utiliser un site, voire une application sur laquelle on sera dédié, sur laquelle on pourra scroller, sur laquelle on va prendre du temps dans un onboarding plus long parce qu'on a envie de s'investir, parce qu'on a envie de se raconter. C'est pas du tout les mêmes attentes. Moi, j'oriente pas de la même façon les clients qui ont 30 ans, ceux qui en ont 50, ceux qui en ont 60, en fait. Il y a vraiment un autre rapport au temps qu'on va avoir envie de passer, ce que j'appelle le régime d'attention, encore une fois. Est-ce qu'on va être en réaction, quelque chose d'assez imminent, ou est-ce qu'on va être plus dans un temps long avec de l'investissement parce qu'on attend exactement la même chose en face, soit quelque chose d'épistolaire un peu long, des onboarding un peu long, on est prêt à se prêter plus à ce genre d'exercice-là. Mais la recherche d'âme sœur, je l'ai à tous les âges, en tout cas.
Alors, comment est-ce qu'on se rencontre pour la première fois? C'est toujours un rendez-vous autour d'un café ou d'un drink, ou est-ce que ça change, quoi, en fait, cette première rencontre avec justement ces applications online qui permettent de développer plus de relations en amont? Est-ce que du coup la première rencontre change, Laurie?
Alors je sais que pour les seniors, ce qui me surprend toujours, c'est cette envie d'avoir un coup de fil en amont. Ça, c'est sûr, c'est vraiment de verrouiller par le coup de fil. Je sais que j'ai vraiment beaucoup vu pendant le confinement le déploiement du FaceTime ou du Visio, que j'aurais presque voulu qu'on poursuive après pour qu'on ait vraiment une rentabilité du temps passé, qu'il y ait une prévalidation beaucoup plus franche. Après, je ne saurais pas forcément. C'est à peu près ça que j'ai noté comme façon de s'y prendre, mais sinon c'est assez similaire chez tout le monde, cette envie d'aller boire un café, d'aller se dater en extérieur quand c'était le moment du Covid. Et encore, je pense que les gens s'invitaient quand même beaucoup chez les uns, chez les autres, ou au rayon jardinage aussi. À un moment, il y avait beaucoup de rendez-vous de dating qui se faisaient au rayon jardinage pendant les restrictions plus franches en France.
Je lisais un article qui disait qu'avec le Covid, on était retourné à une forme de dating du 19e siècle, c'est-à-dire où les gens se rencontraient dans les parcs, quoi, grosso modo.
Ah ben, c'est ça.
Comme on faisait au 19e, quoi, grosso modo, on se donnait rendez-vous dans un parc à l'air libre, etc. On a l'impression de voir les filles en corset avec un
petit parapluie
pour se protéger du soleil, et les mecs en queue de pie, quoi, grosso modo, avec un haut de forme. Ça faisait, quand je lisais l'article, je me disais, mais c'est quoi ce délire? Mais ouais, on a vu ça, quoi, en fait. C'est-à-dire que.
Et des relations épistolaires très longues pendant le Covid, avec des gens qui avaient beaucoup plus le temps, justement, de s'envoyer des mails très longs, de se confier. Il y avait quelque chose qui était un peu. Un petit peu victorien,
voilà, exactement, c'est exactement ça. Et Daniel, il y a aussi un autre phénomène qui est assez intéressant, qu'on appelle, enfin, que j'ai découvert, qui s'appelle le virtual flirting, quoi, qui est grosso modo de se contenter finalement d'une relation online qui est très épanouissante sans que des gens ne se rencontrent jamais ou presque jamais, quoi, en fait. Alors peut-être parce que j'ai trouvé une âme sœur à l'autre bout de la planète, hein, et que je sais que je ne vais pas la rencontrer avant un sacré bout de temps. Mais est-ce qu'on va arriver dans des choses qui sont complètement platoniques comme ça, parce que le online nous apporte une proximité où finalement on n'aurait plus besoin de se rencontrer? J'ai lu des trucs, mais de trucs de malade, hein, alors c'est beaucoup chez les nerds. Et alors je vous passe même l'idée de dater des êtres virtuels, hein. Et qui ne sont même plus des gens, qui sont des bots, qui sont programmés par de l'intelligence artificielle, qui ont des représentations 3D, des gens ont des vraies relations avec ces êtres complètement virtualisés. Est-ce que c'est un monde dans lequel un peu dystopiane, mais dans lequel on se dirige, quoi, en fait? Mais est-ce qu'on va voir ça? Il y a des influenceurs, il y a des célébrités sur Instagram qui n'existent pas, hein, en fait, qui sont des purs êtres, des avatars.
C'est ça, en fait. Il faut différencier un peu le type de relation que tu construis. Est-ce que c'est une relation, on parle d'influenceur one to many, est-ce que c'est une relation one to one, est-ce que c'est amical sur des partages d'intérêts où on se marre parce que il y a un bon feeling dans les échanges de messages, mais il y a aucun attrait particulier au-delà. Ou est-ce que c'est vraiment des échanges avec quelqu'un qu'on l'âme sœur, comme on en parlait tout à l'heure. Et dans ce cas-là, c'est aussi des choses qui existaient. Je suis ennuyeux, je répète la même chose, mais ça existait à l'époque de s'échanger des lettres et d'attendre la lettre de l'autre personne et puis d'être très excité à l'idée de la lire, puis en renvoyer une, etc. et conserver comme ça des relations lointaines pendant des longues périodes. C'est plus facile de le faire sur Internet, donc nécessairement ça existe. Moi, je pense que on pourrait discuter de chacune de ces relations, mais moi, j'ai la conviction forte que de toute façon, peu importe la façon dont tout le monde virtuel se développera, il y aura toujours la rencontre dans la vraie vie et le fait de ce moment magique,
physique, quoi. Oui, effectivement.
Il existera toujours parce qu'on est des êtres humains après tout et qu'on en a besoin d'une certaine manière.
Mais ce qui est intéressant, Laurie, c'est que dans ce que décrit Daniel, c'est que finalement, les premiers rendez-vous ne marquent plus forcément le début d'une relation. C'est-à-dire que la relation a déjà eu lieu, elle s'est déjà construite, on a déjà appris à se connaître, on est sorti quelque part peut-être des attributs un peu superficiels, ce que la chercheuse Jenna Frost appelle les attributs consultables, quoi. C'est-à-dire la taille, les revenus, les tendances politiques, la religion, etc., etc. On a déjà construit une relation, on se connaît, et le premier rendez-vous, c'est autre chose, quoi, en fait. Quoi. Il y a moins de découvertes.
À mon sens, il peut y avoir un vrai effet de reset, quand même, qui se fait à partir du moment où on se rencontre, parce que c'est là où rentre en ligne du compte les phéromones, le body language, le langage parlé. On peut avoir un coup de cœur absolu avec quelqu'un par écrit, justement, et se dire « c'est incroyable, c'est l'homme de ma vie », parce qu'il y a aussi ce phénomène de projection, de fantasme qui est très fort. Et une fois qu'on le rencontre dans la vraie vie, c'est plus du tout… ça ne se produit pas. Donc pour moi, il y a quand même une vraie bascule qui se fait au moment de la rencontre, justement.
Ben justement, et c'est là qu'on rentre dans ce métaverse où finalement on n'a plus ce reset et ce risque d'être déçu quelque part, puisque finalement j'ai daté un avatar, je ne le rencontrerai jamais dans la vie réelle. Moi, je me posais la question en faisant cette émission. Alors Laurie m'a dit, moi, j'y suis pas du tout encore dans le métaverse, donc me pose pas la question à moi parce que je ne saurais pas te répondre. Alors je vais peut-être poser la question à Daniel, mais est-ce que à quoi va ressembler le dating dans le métaverse, parce que la réalité virtuelle est en train de modifier quand même la communication amoureuse, parce qu'on a maintenant à disposition des plateformes qui ne sont pas simplement des plateformes pour échanger de l'information, mais qui sont des plateformes vraiment immersives, quoi, où grosso modo on rentre dans une sorte de d'univers où on peut interagir de façon beaucoup plus presque proche du réel. Est-ce qu'on se dirige vers ça ? Est-ce que ça, c'est un océan de business pour toi, hein, en l'occurrence, Laurie, hein, parce qu'il va falloir faire du coaching, hein, là, quoi, en fait. Mais Daniel, si on va dans le métaverse, il va y avoir du dating dans le métaverse, forcément, non ?
Exactement, et en fait, il faut... Déjà, amener plus de contenu sur une application de rencontre comme on le fait avec Feed, c'est un premier pas. Il faut pas voir, enfin le monde va pas changer comme ça du jour au lendemain et passer du monde réel au monde totalement virtuel. Ça passe par partager plus de contenu. Puis ensuite le contenu, il va être plus en live, il va être sous forme d'un avatar, et un avatar que je vais devoir personnaliser de plus en plus. Le dating en soi, c'est ce moment où je mets en connexion deux personnes. Et quand les deux personnes, après une conversation entamée, ont envie d'avancer dans leur relation, ils s'échangent aujourd'hui ils s'échangent leur Instagram, hier ils s'échangent leur numéro, avant ils s'échangent leur adresse, peu importe la plateforme sur laquelle ils feront du dating dans le futur, mais ils vont s'échanger quelque chose de plus personnel où ils pourront prolonger cette relation-là. Et là, on n'est plus dans le dating à partir du moment où ça se fait plus sur une application. Si tu veux, ça se fait, je suis en train de construire ma relation petit à petit. Donc, pour le dating, ça va être plus de contenu, ça va être des expériences partagées. De la même manière que tu vas dans un festival aujourd'hui et que tu rencontres des personnes, pourquoi ça ne pourrait pas se faire en ligne, ce genre de choses? Et ça arrivera.
Bien sûr.
Ça arrivera. Un jour, j'irai dans un festival, je verrai des gens autour de moi et je vais commencer à parler et je vais apprendre à les connaître. Ce sera tout fait dans un monde virtuel.
D'ailleurs, tu iras dans des festivals dans le métaverse, hein, d'ailleurs. C'est déjà le cas aujourd'hui, quoi. Mais moi, ce que tu dis et ce qui m'intéresse, c'est que quand on, et je pense que la pandémie est très intéressante en ça, et tu le disais tout à l'heure un petit peu, Laurie, avant la pandémie, les rencontres en ligne étaient vraiment centrées sur de la messagerie textuelle et puis bien évidemment plus d'informations, comme le dit Daniel. Puis le Covid a frappé et puis les gens ont migré de plus en plus vers des fonctions de rencontres vidéo. Tu le parlais, beaucoup plus de FaceTime ou de choses comme ça, mais c'est toujours pas, on est toujours dans une sorte d'interview pratiquement où on pose des questions, on se pose des questions les uns les autres, on fait pas quelque chose, c'est pas comme dans la vraie vie où on va au musée, où on va manger, faire un dîner, où on fait quelque chose ensemble. Et ce qui est intéressant dans le metaverse, c'est qu'on dépasse le stade de l'interview ou le stade textuel pour finalement faire des choses ensemble. Et je vais vous donner un exemple. Moi, je pense que le gaming, c'est-à-dire le fait de jouer ensemble à un jeu, par exemple, je suis un gamer, je peux vous dire que ça date dans les games. Hein. Ça date à mort, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'on va jouer à un jeu tous les deux ensemble, que ce soit League of Legends ou Fortnite ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est un peu comme aller au musée ensemble. C'est-à-dire, on apprend des choses, mais on n'est pas dans un process d'interview. Tu vois ce que je veux dire, Laurie?
Oui, à partir du moment
on est en train de faire des trucs.
On partage une expérience, déjà, le lien se fait et il y a une...
Exactement.
L'intention est portée sur quelque chose de tiers et on crée. En plus, on est déjà en train de co-créer des souvenirs ensemble.
Et n'oubliez pas que Fortnite, ils se qualifient comme le nouveau LVMH. Hein. Ce qu'ils vendent, c'est des skins. C'est-à-dire, ils vendent, tu vois, ils te vendent tous les attributs, justement, pour que dans ces jeux et dans cette expérience qu'on construit ensemble, tu puisses apparaître selon ta personnalité, de façon... voilà, donc... elles sont cool, tes baskets virtuelles, en fait.
Mais en fait, tu vois que c'est là où il y a la valeur d'Internet. La valeur d'Internet, ouais. C'était ce côté un peu asynchrone où je suis dans ma bulle, je regarde le profil de l'autre, je lui envoie un message, mais il n'y a pas de live, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas tout ce côté gênant. Et en fait, pour moi, le metaverse, il va combiner le côté live, mais on va garder sa bulle ou sa protection de gens qu'on ne connaît pas dans la vraie vie en se représentant par un avatar, mais en complément d'avoir toujours ce profil où je vais partager plus de contenu réel de moi, où en fait celui-ci sera asynchrone et mon avatar lui sera en live. Et en fait, cette combinaison des deux fait le meilleur des mondes.
Absolument. Et en plus de ça, et c'est pas substituant, il y aura aussi la rencontre dans la vie réelle, quoi, en fait, qui sera encore une autre étape, quoi, en fait, et qui sera ouais. Bon, écoutez, c'est passionnant. Je vous remercie vraiment d'avoir échangé avec moi sur ce sujet que je ne connais pas du tout, mais que je découvre. Et j'ai eu plein de plaisir, vraiment beaucoup de plaisir à faire mes recherches, comme à chaque fois, pour préparer les émissions, à lire plein de choses et à discuter surtout avec vous qui êtes des experts. Allez faire un tour sur Fields et regardez à quoi ressemblent les nouvelles applications de rencontres, nouvelle génération. Pas simplement d'ailleurs avec que des Gen Z dedans, hein, mais c'est intéressant pour tout le monde. Et puis, si vous entamez une démarche, en fait, pour rencontrer l'âme sœur, faites appel à Laurie si vous êtes... Tu es à Paris, c'est ça, Laurie?
Exactement.
Bon, voilà. Si vous êtes en France, vous avez votre coach à disposition. Rencontrez Laurie Duteil et faites-vous accompagner. Elle saura vous donner toutes les astuces qu'il faut pour faire de votre journée une journée d'amour. Glorious in a day for love. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Silicon Carnet. Hasta luego, amigos!